au cimetière de Recoleta, à Buenos Aires. Ma rêverie ridicule prend fin à la faveur d'une glissade tout aussi ridicule sur un tapis de feuilles humides. En me relevant, ma pitrerie ayant éparpillé les feuilles, je remarque que j'ai en fait glissé sur une tombe, tellement mal entretenue que même la pierre a presque fini par se faire enterrer. Je me remets à marcher, les mains dans le dos, en fixant le sol, et très vite, ma lucidité retrouvée se dissipe. En imaginant cet homme doublement enterré, un certain G.L.RM.IA.A, je me dis « Putain de merde, ça peut pas être un nom ça !» Et je me mets à penser que les morts, comme les vivants, doivent eux aussi se juger. Que dirait-on d'un mort deux fois enterré? Sans doute. « Fais un effort mon vieux, arrange-moi cette bicoque. Regarde, tout le monde te marche dessus, t'en as pas marre de te faire écraser ?» On t'a piétiné toute ta vie et on continue à te piétiner jusque dans ta tombe. Merde, fais-toi une petite beauté. Les gosses, la nuit, viennent s'asseoir sur toi et tu fermes ta gueule. Ils laissent leur bière et leur barquette de petit écolier et après c'est tout le quartier qui devient infréquentable à cause de ta permissivité. Même le gardien qui connaît le cimetière par cœur t'a oublié. Ça fait de la peine. Que font les morts sous la terre? Peut-être font-ils la fête régulièrement, libérés des obligations qui, chez les vivants, s'accumulent avec l'âge. Peut-être se regroupent-ils par catégorie d'âge ou par centre d'intérêt. Peut-être qu'il y a, sous la terre, des clubs et des syndicats. Et peut-être même que, sans que nous le sachions, car qui serait assez cinglé pour aller vérifier ça, ils changent de cercueil chaque nuit, qu'ils ne sont plus du tout là où l'on croit qu'ils sont, et que lorsque l'on pense se recueillir sur la tombe d'un soldat mort pour son pays, l'on prie en fait au-dessus d'un tueur d'handicapés. Ils ont peut-être passé un accord et décidé d'échanger leur cercueil pour une semaine ou un mois, parce que le tueur trouve celui-ci plus spacieux et que le soldat y trouve aussi son compte en se rapprochant de sa bien-aimée, enterrée dans un autre carré. Ou bien peut-être qu'ils jouent juste un mauvais tour aux vivants. Et ils pourront en rire ensemble sans vexer personne, puisque personne ne le saura jamais et que de toute façon, dans la mort, plus rien n'a grande importance. Peut-être que quand mamie en a marre des ronflements de papy, elle sort de sa boîte et va rejoindre tati Albert à l'autre bout du cimetière pour tailler le bout de gras. Mais je ne suis pas certain que les morts puissent voyager d'une tombe à l'autre ou se retrouver dans des galeries profondes creusées en secret des vivants. En revanche, j'en suis désormais persuadé, les morts doivent se parler depuis leur tombe. Que se disent les morts d'une tombe à l'autre? À coup sûr, ils se plaignent, comme tout le monde. Ma tombe est trop étroite, trop vaste. Je m'y sens trop seul. Elle n'est pas assez fleurie, et avec les mauvaises fleurs. Et pourquoi m'apporter des bégonias si vous savez bien que j'y suis allergique? Est-ce pour me punir post-mortem de ces promenades d'été que j'ai gâchées enfant? Et qui met des tulipes jaunes sur une tombe, bordel de merde? C'est quoi, vous voulez que je comprenne bien que ma mort a rendu votre vie plus éclatante? Vous voulez vraiment me foutre le bourdon jusqu'ici? Foutez-moi des chrysanthèmes, ça c'est de bon goût. Et ces putains de marguerites qui fanent en deux jours. Et tu n'es pas au courant que les roses me rappellent des souvenirs douloureux de vacances passées chez Pépé et Mémé, qui me fouettaient avec des branches d'épines quand j'étais trop agité. Maman, j'ai bien vu que ta sœur faisait semblant de pleurer à mon enterrement. Tu te demandais qui avait bien pu déposer ces algues dégueulasses sur ma belle gueule? Eh bien, c'est cette conne. Franchement, des algues sur un mort. Faut avoir une sacrée rancune. Et pourquoi vous m'avez enterré dans cette allée sinistre et mal fréquentée? Vous voyez bien que je suis entouré de voyous. On ne meurt pas pour rien d'une balle dans le buffet à 19 ans. J'ai déjà eu assez d'une vie à regarder derrière mon épaule en rentrant chez moi le soir. Personne n'a voulu mettre la main au portefeuille pour tata. Et oui, ici aussi, ils foutent le bordel. Ça joue du djembé sur le bois du cercueil pendant des heures et après, on me demande de reposer en paix. Heureusement que le beau général monte la garde à partir de 22h et que grâce à cela, il nous reste au moins la nuit pour dormir. Pour avoir tenu tête à la vermine de quartier, j'ai bien peur qu'un jour il se fasse tuer dans sa mort. Et qu'est-ce qu'il fait sombre ici? Quelle idée de m'avoir enterré à l'ombre! Ce châtaignier me gâche toute la vue. Dernièrement, j'ai cru que l'ambiance dans le quartier allait s'améliorer. Quand ils ont fait venir ce jeune artiste peintre rapatrié exprès depuis le Mexique pour être enterré dans sa mère patrie, j'ai pensé qu'il allait mettre un peu de couleur dans toute cette torpeur. Putain de gris partout. Gris des tombes, gris des graviers, gris du ciel presque toujours. Même le vert des feuilles a tourné au gris à force de s'ennuyer. Mais cet artiste, j'aimerais bien savoir qui lui a donné ce titre. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait enlever cette mention sur sa stèle et j'aurais mis à la place « peintre en bâtiment » ou mieux « fournisseur officiel de désespoir ». Et j'aurais ajouté en petit « mort trop tard ». Parce que qu'est-ce qu'il nous peint à longueur de journée? Des saloperies de marine cafardeuse. J'aurais dû me douter que c'était pas un marrant quand on l'a enterré dans son costume de tweed beige à rayures verticales. Quelle idée de m'avoir enterré à Recoleta alors que j'ai toujours vécu à la Boca et que ce qui me reste de famille continue d'y vivre. Personne ne vient jamais me voir. C'est normal, avec la mauvaise hernie de ma fille et son mari qui va bientôt en choper une à force de soulever des pianos 7 heures par jour. Et mon mari, mort lui aussi, et que, sous prétexte que nous étions divorcés, on a préféré enterrer à l'autre bout du cimetière, à côté de son grand frère. Et autour de moi, tous ces bourgeois qui se pavanent dans leur caveau, toujours bien fleuris, même 20 ans après avoir passé l'arme à gauche, comme si même dans la mort, les privilèges des riches subsistaient. Et je vois bien les regards de dédain de leurs proches quand ils passent devant ma tombe austère. Je n'ai pas dû être bien aimé de mon vivant pour qu'on m'inflige un tel dénuement. Et si l'on me rend si peu visite, c'est sans doute que j'ai dû le mériter. Mais que peuvent-ils en savoir, eux qui habitent si près du cimetière qu'ils pourraient presque jeter un bouquet de fleurs par la fenêtre et qu'il atterrirait pile sur la tombe de leur papa chéri. Si vous saviez ce que les morts pensent de vous, les rancœurs perdurent jusque dans l'au-delà. L'éternité, le néant, selon le nom que vous voudrez lui donner. Quant à moi, l'idée d'une vie éternelle après la mort ne m'a jamais été d'aucun réconfort. Elle me causait même une profonde angoisse. C'est ce qui, je crois, m'a poussé à passer autant de temps sur Terre pour profiter, tant que je pouvais, de cette vie finie qui me faisait l'effet d'un gouffre d'ennui sans fond. Je suis morte il y a trop peu de temps. Je ne peux pas encore vous dire ce qu'il y a après la mort. Pour le moment, on m'a prévenu que j'étais dans une période transitoire pour une durée indéterminée. La belle affaire. La réincarnation ne me tente pas plus que ça. Je m'exposerai à une vie bien pire que celle que j'ai eue. Les jeunes gens sont devenus tellement violents. Non, moi, ce qui me plairait serait une mort comme dans ce film que j'ai regardé avec mes petits-enfants, Harry Potter. Les sorciers cohabitent avec les fantômes qui peuvent se promener à leur guise dans le château de Poudlard. Ils forment une communauté soudée et ont même leur petite cérémonie à eux. Peut-être que le monde des sorciers existe réellement et que je suis simplement une moldue qui s'ignore. Mais revenons à mes Richards qui crachent par terre en voyant ma tombe et qui se croient tellement supérieurs et qui visitent le cimetière toutes les semaines, plus pour comparer les tailles de cercueil comme ils comparent la taille de leur montre, de leur voiture, de leur maison et de leur bite, que pour se recueillir vraiment devant les proches trépassés. Évidemment, ils viennent en quête de bonne conscience, mais la mort n'efface pas les dettes. Et si vous vous demandez ce qu'on dit de vous dans les sous-sols de la Terre, je dois vous prévenir qu'on en entend de belles. Ce suicide inexpliqué de votre fille née avec une cuillère d'argent dans le bec et qui semblait si heureuse, eh bien elle avait là la cuillère et la boîte de cyanure, tant elle préférait venir avec nous sucrer les fraises que de voir un jour de plus votre sale face de serpent gavée au dindon. Un dindon farceur, la mort. Et vous, un dindon piailleur, de ce qu'on m'en a dit. Et ce petit tailleur rose que je vous vois souvent porter me dit la même chose. Tellement jacteuse, voyez-vous, que votre fille a préféré le silence éternel.